Seigneur, il est dit dans ta parole, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, nous prions sur la base de ce verset, que tu nous fasses entendre ta parole. Que tu nous fasses entendre ta voix. Nous voulons écouter ta voix sans ambiguïté, sans interférence. Parle-nous, parle-nous. Tu es un Dieu qui parle. Et lorsque tu parles, Seigneur, tu te fais entendre. Oui, fais-nous entendre ta voix. Petits et grands, nous voulons nous saisir de ta parole ce matin. Afin que notre foi soit enracinée en toi et dans ta parole. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être là et d'écouter ta parole. En tout cas, bénis notre écoute de ta parole. Que nos cœurs soient vraiment sensibles à ta parole. Que nos esprits soient disponibles pour recevoir ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse grandir en toi. Que toute sa gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, les enfants peuvent sortir. C'est prévu. Et tremblements. Voilà, je vous propose ce matin, frères et sœurs, un message que voilà, j'ai intitulé d'une certaine manière, en tout cas. Le message de ce matin fait suite à tout ce que nous avons entendu sur la base d'Ésaïe 53. Souvenons-nous que nous avons parcouru ce texte et beaucoup d'autres aussi dans la Bible. Sur 9 aspects de cet échange qui a eu lieu à la croix, lorsque Christ est mort et ressuscité pour nous. Et donc, ce matin, ce que je veux parler ce matin, c'est au fond comment prendre ce dont nous avons évoqué, comment nous approprier de ce que Dieu, au fond, a déjà rendu disponible. Comment prendre ce que Dieu a disposé pour nous. Quel est le titre de mon message de ce matin? Je vous lis une portion des Écritures, en tout cas pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour écouter. Je suis dans le livre de Josué au chapitre 1, les versets 2 et 3. En dehors d'Ésaïe 53, je ne reviens pas sur la lecture de ce passage, mais voilà, je prends Josué, chapitre 1, versets 2 et 3, lisant au nom du Seigneur. Moïse, mon serviteur, est mort. Alors, je suis sur une version qui m'a semblé un peu plus proche des idées que je voulais, avec quelques nuances, c'est la version Darby. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Jusqu'ici donc, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous asseoir dans sa sainte présence. Comment donc prendre ce que Dieu a rendu disponible ? Comment prendre ce que Dieu a rendu disponible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de tout ce que Dieu a fait sur la croix. Mais nous voulons, voyez-vous, ou nous devons en outre réaliser, en tout cas bien entendu, que, en tout cas, cela ne nous sera pas d'une grande utilité si nous ne savons pas comment nous les approprier. On a dit, je ne reviens pas sur ça, Christ par ses meurtrissures, voyez-vous, nous avons été guéris, c'est comme des chèques à blanc là, hein, que la Bible met à notre disposition. Par sa pauvreté, enfin il s'est rendu pauvre pour nous enrichir, il a pris notre malédiction pour nous accorder sa bénédiction, ainsi de suite. Maintenant, il faut nous approprier, voyez-vous, car même si quelque chose m'appartient, voyez que je peux toujours vivre chaque jour en ignorant que cette chose est à moi. Dans ce sens, puisque je ne sais pas que cette chose, que cela m'appartient, mais cela ne va pas devenir pour autant réel pour moi. Je l'ignore. L'erreur, voyez-vous, que nous commettons souvent, alors dans les choses spirituelles, voyez, c'est de s'imaginer que si quelque chose m'appartient, parce que la Bible le dit, si quelque chose m'appartient, parce que la Bible le proclame, cela va se produire automatiquement. En d'autres termes, voyez, cela va tout bonnement nous tomber dessus, en tout cas comme des fruits mûrs qui tombent d'un arbre. Dans le naturel, dans la vie de tous les jours, quelque chose peut être à nous. Mais si nous ne le savons pas, mais comme je disais, cela ne nous sera d'aucune utilité, puisqu'on ne le sait pas. On peut avoir de l'argent dans la poche pour acheter quelque chose à manger, voyez, et être tout de même affamé. Affamé pour finir par mourir de faim, pour la simple raison que l'on ignore. On ignore que cet argent existe quelque part dans ma poche. Il n'aura servi à rien. Nous sommes là dans le domaine naturel. Mais dans le domaine spirituel, les choses se passent aussi de la même façon. Quelque chose peut vous appartenir, mais si vous ne le savez pas, cela ne vous servira à rien. Même si vous le savez, admettons, et que vous ne connaissez pas toujours comment en profiter, cela n'aura, en tout cas pour vous, aucune valeur. Même si c'est à vous. Alors, c'est exactement ce que je veux expliquer ce matin sur la base de ce passage. Si vous manquez ce que Dieu a prévu pour vous, je dis bien, si vous ratez, vous manquez ce que Dieu a prévu pour vous, ce n'est pas parce que c'est trop difficile. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais au contraire, c'est parce que c'est trop simple. Je ne dis pas que c'est trop facile, mais c'est trop simple. Il n'y a rien de compliqué dans le plan de salut de Dieu, dans le plan de Dieu pour nous approprier de la délivrance et du salut que Christ nous a acquis à la croix. Le livre de Josué contient un merveilleux message qui est un modèle à suivre en fait pour nous. Josué avait la lourde responsabilité d'amener les Israélites dans le pays de Canaan après la mort de Moïse. Ce n'est pas évident d'ailleurs de succéder à quelqu'un comme Moïse, qui est l'un des plus grands serviteurs, si ce n'est le plus grand serviteur de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Josué devait donc le succéder alors que Moïse était un exemple difficile à suivre. Nous avons lu Josué chapitre 1, versets 2 et 3. La promesse de Dieu dans ces deux versets contient deux temps différents. En tout cas, d'après les manuscrits les plus proches des textes originaux. Au verset 2, l'Éternel dit, Je leur donne. Je leur donne. Et au verset 3, l'Éternel dit, je vous l'ai donné. Je leur donne, je vous l'ai donné. Nous savons que l'Éternel est celui qui dispose de toutes choses, en tout cas sur la terre, comme au ciel. Il est dit au début du psaume 24, psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand l'Éternel donne quelque chose, c'est décidé. En tout cas, on ne discute pas, c'est décidé. Dieu a donné, mais parce que Dieu ne ment pas. Dans ce cas précis, en tout cas qui nous concerne, Dieu avait dit, je vous donne ce territoire que tu vois en face de toi. Puis il a dit, je vous l'ai donné. Je vous donne, je vous l'ai donné. À partir de ce moment-là, alors, vous voyez, légalement parlant, tout le pays de Canaan appartenait aux enfants d'Israël. Légalement parlant. Dieu a dit, je vous donne. Cependant, concrètement, ils ne l'ont pas occupé plus que ce que le Seigneur leur avait donné quand il a parlé. Les enfants d'Israël auraient pu, en tout cas, avoir deux réactions. D'abord négatives face à cette promesse, en rapport avec la situation concrète, bien entendu, sur le terrain. La première réaction, c'est le découragement. L'Éternel a dit qu'il nous donnait, mais nous n'avons pas plus qu'avant. La seconde aurait pu être la présomption qui d'ailleurs est le contraire même du découragement. Ils auraient pu se mettre en ligne, en tout cas sur la rive du Jourdain, croiser les bras, regarder vers l'ouest et dire tout cela, évidemment, nous appartient. Là aussi, de même, ils ne l'auraient pas eu plus qu'avant. Ils auraient pu encore être un peu plus aventuriers. Vous voyez, dans la foi, souvent, il faut être comme un aventurier. Ils auraient pu traverser le Jourdain, se mettre en ligne sur la rive ouest, regarder vers l'ouest, croiser les bras et puis dire, tout est à nous. Voyez-vous, bien-aimés, que légalement, je dis bien légalement, ils en auraient eu le droit. Mais en fait, expérimentalement, du point de vue de l'expérience, ils auraient eu tort. Ils auraient eu tort, car les Cananéens étaient là. Et ils étaient là et savaient que c'est eux, au fond, qui possédaient encore le pays. Ils étaient là. Frères et sœurs, parfois l'Église peut être comme cela. Quelle que soit la rive, voyez-vous, du Jourdain sur laquelle nous nous trouvons, nous sommes là, nous regardons le pays. Nous regardons le pays promis et nous disons, mais voilà, tout est à nous. Oui, tout est à nous. Effectivement, légalement, nous avons raison. Mais dans les faits, en réalité, mais nous avons tort. Nous avons tort. Une fois que nous sommes nés de nouveau, que nous avons revêtu la nature divine, légalement dit la Bible que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Nous appartient. Pourtant, nous ne le possédons pas encore. C'est simplement parce qu'il existe justement une différence entre ce qui est légal et ce qui est expérimental. Légalement, tout ce que Jésus a fait sur la croix est déjà rendu disponible pour nous. Déjà, il a pourvu expérimentalement. Nous ne sommes pas encore entrés dans tout ce qui a été promis. Qui aujourd'hui peut attester qu'il s'est approprié par expérience de tout ce que Jésus a prévu pour lui à travers sa mort sur la croix? Qui? C'est là que la foi et l'obéissance doivent jouer pleinement leur rôle, la foi et l'obéissance. Mais avant de parler de la foi sur la base d'un verset d'ailleurs, connu, que nous avons lu maintes fois, même dimanche dernier, verset 6 d'Hébreux 11, lisons d'abord Hébreux 10, verset 14, qui dit ceci, Hébreux 10, 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il s'agit là de nous. Hein. Ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que la croix, c'est l'offrande. La croix, c'est l'offrande. Dieu dit, mais je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Donc, être sanctifié, c'est comme traverser le Jourdain, être sanctifié. Nous devons maintenant entrer dans le pays et en prendre possession. Voilà ce que ce verset dit. Mais frères et sœurs, d'ailleurs, souvenons-nous, sur la base de la mise en place du projet Vitalité, lorsque vous regardez sur le dépliant qui explique Vitalité, où est-ce que nous en sommes, le parcours? Où est-ce que nous en sommes? Mais nous avons traversé le Jourdain. Regardez où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous sommes. Nous avons traversé le Jourdain. Et que reste-t-il à faire? Mais de posséder le pays. De prendre possession du pays. Dieu a réalisé deux miracles extraordinaires pour amener les Israélites à la terre promise. Deux miracles. Vous voyez, la traversée du Jourdain à pied sec, Josué chapitre 3, et ensuite l'écroulement des murailles de Jéricho. Josué chapitre 6. Ça, c'est Dieu qui a fait des miracles. Hein. Vous voyez, à partir de là, les Israélites ont dû se battre. Il faut se battre pour obtenir tout le reste. Il faut se battre. C'est aussi vrai pour la vie chrétienne et pour la vie de l'Église, mes frères et sœurs. Mais Dieu fera certains miracles pour que vous puissiez entrer. Il va faire des miracles. Il en a fait. Après cela, après que Dieu ait fait des miracles, mais vous n'obtiendrez pas ce pourquoi vous vous battez. Et si vous ne vous battez pas, malheureusement, mais vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez... Dieu ne peut pas faire à votre place ce que vous devez faire. Sinon, vous n'obtiendrez rien. Historiquement, les Israélites n'ont pas envahi tout le pays en ce moment-là. Ils ont cherché, ils ont plutôt cohabité avec les peuples étrangers, ce qui a été désastreux, néfaste pour eux. Et là encore, c'est une image de l'Église, voyez-vous, qui essaye de composer, de s'installer, de cohabiter avec les forces ennemies, voilà, qui ne devraient pas être là, les forces du monde. Josué et les Israélites qui entrent dans leur héritage, mais c'est un modèle pour vous et moi. Ne croisez pas les bras en disant « tout est à nous ». C'est trop facile. Et par cette attitude, vous êtes voué à la déception. Ah, la déception. Au contraire, ne soyez pas découragé. Si vous vous trouvez engagé dans une rude bataille, cela fait partie du processus. Cela fait partie du processus. C'est une telle attitude qui glorifie le Seigneur, selon ce qu'il est dit dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Autrement dit, combattez le bon combat de la foi sans murmurer. Et moi, dit l'Éternel, je vous donnerai la victoire. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, là, vos adversaires, toutes ces épreuves, mais qui sont devant vous, là, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 17 du livre d'Abdias. Vous voyez, Abdias, c'est l'un des plus petits prophètes de l'Ancien Testament. Le livre d'Abdias n'a qu'un seul chapitre. Un seul chapitre. Et au verset 17, il est dit quelque chose de très important parce que ça nous édifie vraiment sur ce qu'on appelle la restauration d'Israël. Et qui est aussi la restauration de notre héritage à nous. Cela commence maintenant, cet héritage, bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir, mais l'héritage, c'est d'abord ici-bas, avant le ciel. Ce verset dit ceci. Mais le salut, autrement dit la délivrance, sera sur la montagne de Sion, et elle sera sainte, et la maison de Jacob, c'est-à-dire Israël, reprendra ou possédera ses possessions. Remarquez la présence dans ce verset de trois idées fortes. Vous avez la délivrance en premier lieu, ensuite la sainteté en deuxième lieu, et le peuple de Dieu qui entre dans son héritage, dans ses possessions en troisième lieu. Délivrance, sainteté, héritage, le fait de les posséder. Ce verset sous-entend, frères et sœurs, qu'il est possible d'avoir des possessions, mais que nous ne posséderons jamais. C'est dommage d'avoir des possessions, mais que nous ne posséderons jamais. C'est à vous l'héritage, mais vous ne le possédez pas. Vous voyez, la délivrance est essentielle si le peuple de Dieu veut posséder son héritage. Étape préalable. La délivrance. Ensuite, nous ne pourrons pas réclamer notre héritage sans sainteté. D'après Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mis à part. C'est une façon de dire que c'est lorsque nous progressons dans la sainteté, que nous avançons aussi vers notre héritage. Jésus viendra prendre une église. Comment ? Sans tâche, ni ride, ni quelque chose de semblable. Donc, une église qui progresse dans la sanctification, dans la sainteté. Comment, dans la pratique, pouvons-nous nous approprier ce qui a été pourvu pour nous sur la croix? Comment? Alors, revenons justement sur la foi, qui est la première chose à souligner sur la base d'Hébreux 11, verset 6, qui dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'en ai parlé dimanche dernier. Vous savez comme moi, frère, que la plupart des gens croient que Dieu existe. Beaucoup, ils croient que Dieu existe. Mais vous voyez bien que ce n'est pas suffisant. Le fait de dire que Dieu... D'ailleurs, on dit que les démons croient aussi, et ils tremblent. Croire que Dieu existe, c'est dire, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez le chercher. Vous devez le chercher. Mais bien, avant de le chercher... Il y a un préalable, nous dit le texte, il y a une condition importante à remplir, et cela doit être sans l'ombre d'aucun doute. Vous devez croire que si vous le cherchez avec zèle, il vous récompensera. Il vous récompensera avant même, dit le verset, de le trouver. Donc, la foi est essentielle, la foi. Elle est essentielle. Mais il y a encore quelque chose d'autant plus essentiel qui est le zèle. Comment cherchez-vous Dieu? Le zèle. En lisant attentivement la Bible, je n'ai jamais vu un seul passage qui parle en bien de la paresse. De la paresse. Il n'y a pas un seul verset de bien sur la paresse. La Bible condamne l'ivrognerie. Et elle condamne encore plus sévèrement la paresse. Cependant, certaines de nos valeurs dans l'Église sont tordues, parce que nous condamnons les gens qui sont ivrognes, mais alors nous tolérons ceux qui sont paresseux. Bon, ils sont en route, ils cheminent, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ils sont en route. Et chemine. Non seulement que la foi est essentielle, je disais, mais le zèle l'est d'autant. Dieu n'a pas de récompense pour la paresse, pour les paresseux. Cela nous invite, frères et sœurs, à réinitialiser notre logiciel, notre manière de penser, mais parce que l'homme est ce qu'il pense. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es, et ce que tu penses là, c'est ce que tu deviendras. Tu ne peux pas penser une chose et devenir autre chose que ce que tu as pensé. Voilà pourquoi, au sujet de la manière de penser, l'apôtre Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez, ce qui suppose que nous combattons selon la foi. Si nous ne marchons pas selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons, pardon, selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, nous combattons selon la foi. Et il ajoute, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la force de Dieu pour renverser les forteresses. Enfin, il dit, nous renversons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Souvent, mais très souvent, notre manière de penser dénote simplement notre incrédulité. Nous pouvons dire une chose, alors que dans notre fort intérieur, nous pensons autre chose. Il n'y a pas de cohérence là. Et cela arrive même qu'au-dedans de nous, nous combattons ce que nous disons. Je dis quelque chose, mais au fond de moi, je combats la chose. Mais la foi ne fonctionne pas de cette manière. Nous devons avoir la foi que si nous cherchons Dieu avec zèle, nous serons récompensés, dit le texte. Il est des moments où vous croyez chercher Dieu de tout votre cœur, et pourtant, vous ne semblez pas récompensé. Je pense que je ne suis pas la seule personne à qui cela arrive, et c'est justement là que vous devez tenir ferme dans la foi. Hébreux 11, 6 dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, que vous le voyez ou que vous le sentiez avec zèle. Quoi qu'il se produise, votre récompense est certaine. Certaine. Il se peut qu'elle ne vienne pas au moment où vous l'attendiez, ni sous la forme d'ailleurs que vous avez vous-même imaginé, ou pas au moment où vous l'attendiez, mais Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Elle viendra toujours, cette rémunération. Maintenant, à ce stade, frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir ceci, comment obtenons-nous une telle foi? Puisque c'est la foi qui nous permet de nous approprier ce que Dieu a rendu disponible. Mais comment obtenir une telle foi? Nous sommes en train de parler de comment s'approprier ce que Dieu a prévu pour nous. Comment faire pour que ce qui est légal devienne expérimental, que nous puissions vivre cela du point de vue de notre expérience du quotidien. Romains 10, 17 nous répond. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardons ce verset attentivement, frères et sœurs. Certaines personnes pensent que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Certaines personnes pensent que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Mais ce n'est pas exactement ce que Paul dit ici. En effet, voici exactement ce qu'il est en train d'affirmer, l'apôtre Paul. Ce qui vient de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'écoute. Voilà ce qui vient de la parole de Dieu. C'est l'écoute. C'est le premier niveau, en quelque sorte. Il faut que tu t'exposes à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce qui vient de ce qu'on entend par la suite, c'est la foi. Deuxième niveau. Il s'agit là de deux étapes. Quand vous vous exposez à la parole de Dieu avec un esprit bien disposé et un cœur vraiment ouvert, ce qui vient d'abord à vous, c'est l'écoute. C'est l'écoute. C'est-à-dire la capacité d'entendre ce que Dieu vous dit. Voilà ce qui vient d'abord à vous, de sorte que la parole doit devenir réelle pour vous. Voyez, maintenant, une fois que la parole est devenue réelle, c'est à partir de cette écoute que la foi va commencer à se développer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème est que beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps nécessaire pour écouter ce qui produirait la foi. Vous devez vous exposer à la parole de Dieu sans vous fixer de limites humainement parlant, de limites de temps. Dieu n'offre pas la foi instantanément. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que nous sommes tellement habitués à l'instantané que nous présumons que Dieu aussi agit
comme cela.
Non. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu est une sorte de machine automatique, céleste en quelque sorte. Voilà. Trouvez justement la bonne pièce, mettez-la dans la bonne fente, et vous obtenez quoi? Une boisson désirée, quoi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une machine à café, mais Dieu est une personne spirituelle, une personne. Vous devez vous confier en lui d'une façon très personnelle, si vous voulez obtenir des résultats. Si vous ne prenez pas le temps pour écouter tout ce que vous ferez, c'est quoi? C'est lire la Bible. Lire la Bible, c'est différent d'écouter. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter tout ce que vous ferez, c'est lire la Bible. Mais la foi ne vient pas de la lecture de la Bible, non. Elle vient en écoutant Dieu à travers la Bible. C'est différent. Elle vient en écoutant Dieu à travers la Bible. D'abord écouter, ensuite la foi. Le mot parole dans Romains 10, 17. Parole est rhéma. Et non pas logos. Il ne se réfère pas au logos, c'est-à-dire à la parole de Dieu qui est établie pour toujours dans le ciel. Mais il se réfère à la parole que Dieu vous donne à un moment précis, au moment où vous méditez sur sa parole. De même que Jésus a dit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole, rhéma, qui sort de la bouche de Dieu. Ici aussi, le mot parole, c'est rhéma. Dieu doit vous parler à travers votre lecture de la Bible. La Bible, frères et sœurs, est un livre rempli de feuilles, de papier blanc avec des marques noires dessus. Mais ces marques ne nous font aucun bien. Ce qui nous transforme, ce qui nous transforme en quelque chose et qui produit la foi, c'est le Saint-Esprit qui fait de la parole de Dieu une parole vivante pour nous. Elle doit donc devenir un rhéma. Le logos doit devenir un rhéma, c'est-à-dire la voix de Dieu qui me parle à moi personnellement. La voix de Dieu. C'est là que chacun de nous doit arriver, quel que soit l'effort nécessaire, frères et sœurs. Ne vous arrêtez pas dans votre relation avec Dieu, dans laquelle sa parole ne vous parle pas. Ne vous arrêtez pas là. Il faut que la parole vous parle. Vous devez d'abord cultiver l'écoute, de là naîtra la foi. Telle est la raison d'ailleurs du succès des Thessaloniciens, d'après l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, qui dit « En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole humaine, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Vous voyez, quand vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, elle fera de vous ce que Dieu a dit que cette parole allait faire. Comment s'approprier ce que Dieu a prévu? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il s'agit de donner à Dieu et à sa parole la priorité dans votre vie, plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Cherchez Dieu et sa parole en premier lieu. Recevez l'Écriture comme la parole personnelle de Dieu pour vous et recevez-la, nous dit l'Épître de Jacques, avec douceur. Jacques chapitre 1, verset 21, en obéissant justement à ses commandements. Quand vos priorités sont ajustées et que vous avez envers Dieu et sa parole l'attitude qui permet à la foi de se développer, vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction pour recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Vous pouvez alors vous approprier tout ce que Jésus a prévu à travers sa mort sur la croix. La parole de Dieu, frères et sœurs, est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous ayons ce que sa parole atteste. La parole de Dieu est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est que nous obtenons ce que sa parole dit, ce que sa parole atteste. Mais tant que nous ne savons pas, le diable profite de notre ignorance. Croire en Dieu et agir dans l'obéissance à sa parole, tel est le schéma, frères et sœurs, pour s'approprier ce que Christ nous a acquis à la croix. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.
Amen.